Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
Suite et milieu d'une semaine sur l'éthique de Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après avoir effleuré la première et la seconde partie de l'éthique, où il était respectivement question de Dieu, c'est-à-dire de la nature, et de l'esprit, c'est-à-dire du corps, on en vient maintenant à la troisième partie de l'éthique, dans laquelle Spinoza rédige son propre traité des passions. Rien n'est plus utile que cette troisième partie, car il s'agit ici de la description ou du décryptage, c'est selon, des mécanismes imaginaires, au hasard des rencontres et des idées inadéquates qui nous valent d'être esclaves de nos désirs. Cette description ne se fait pas au détriment du désir, mais à son profit, et c'est tout le paradoxe. Une troisième partie qui est, également, la première formulation de ce que René Girard appellera plus tard le triangle mimétique, et qui consiste en cela que nous désirons non pas un objet lui-même, mais bien le désir que d'autres en ont. De sorte que, contrairement aux apparences, la chose désirée est presque indifférente au désir qu'elle est censée nous inspirer. Indifférente, en tout cas, elle l'est au mécanisme dont elle fait les frais ou dont elle retire son profit. Bref, nous vivons ordinairement comme des girouettes, à la merci d'un désir changeant, quoique intégralement explicable, un désir aussi changeant et aussi explicable que le vent lui-même. L'ambivalence et l'instabilité sont notre condition, tant que nous n'avons pas ressaisi le désir dans une compréhension précise de ses mécanismes. Bonjour Philippe Danino.
Bonjour.
C'est avec vous qu'on va parcourir rapidement, on a 50 minutes pour ça, cette troisième partie de l'éthique. Vous êtes professeur agrégé au lycée Buffon, inscrit en thèse à Paris 1, sous la direction de Chantal Jacquet, grande spinoziste devant l'éternel. Une thèse que vous rédigez sur l'idée de philosophie chez Spinoza. Alors, Philippe Danino, on a terminé hier l'émission avec Julien Henry sur l'idée que pour sortir de la guerre civile entre la raison et les passions, telle que l'avaient instituée les philosophes du XVIIe siècle et Descartes le premier, pour sortir de ce combat singulier entre la raison et les passions qui viendraient la contrarier, la contredire, Spinoza, paradoxalement, en vient à rationaliser les passions elles-mêmes, à géométriser les passions. Est-ce qu'on peut le dire ?
Oui, mais avant d'affirmer une telle chose, je crois que l'idée d'une guerre entre les passions et la raison chez Spinoza est une idée, pour le coup, plutôt inadéquate. Dans la mesure où si guerre il y a, ce serait plutôt une guerre intestine en l'homme lui-même.
Oui, c'est pour ça que
en
je
l'homme
parle de guerre civile.
Plutôt déchiré, qui en effet éprouve son impuissance, son inconstance, et dans la mesure aussi où autant les affects sont des phénomènes naturels, autant le fait de me conduire par la raison est aussi une expression de ma nature, une expression davantage accomplie, mais il n'y a pas, si vous voulez, d'opposition, comme si me conduire par la raison était un devoir-être préférable en soi au fait d'éprouver des affects.
Précisément, la raison est une passion elle-même et les passions font l'objet d'une analyse rationnelle. Spinoza traite des hommes, des passions humaines, comme s'il était question de lignes, de plans et de corps.
Voilà. Alors ça, c'est effectivement un point extrêmement important. C'est quelque chose qu'il définit, un objet de la partie 3 qu'il définit dès la préface à cette partie 3 de l'éthique. L'homme suit l'ordre commun de la nature. Autrement dit, si vous voulez, l'idée première est
que
il n'y a pas d'exception humaine. L'homme n'est pas un empire dans un empire, comme il le dit. C'est-à-dire, en effet, que non seulement la nature ou le monde n'est pas un empire qui serait l'objet d'un empereur ou régi par un empereur, mais en plus, l'homme n'a pas de privilège ou de place particulière, même s'il a ses spécificités, au sein, effectivement, de la nature. Par conséquent, ces mouvements, les mouvements qu'il éprouve lui-même, qui lui sont propres, relèvent aussi de la nature, et ce qui amène, en effet, Spinoza à, dispenser d'un discours moral sur les passions, pour le dire vite.
Et ce qui amènera ses détracteurs à tenir la philosophie de Spinoza pour une philosophie proprement inhumaine. On pourrait considérer que de ce point de vue, dépouillant l'homme de la centralité au sein de la création, qui était son lot hein, dans toute interprétation théologique orthodoxe du monde, dépouillant l'homme de ce caractère de centralité, en particulier dans l'appendice de la première partie de l'éthique, dépouillant l'homme de cette position privilégiée, Spinoza en vient à traiter l'homme ou à parler de l'homme comme de toute chose, c'est-à-dire en lui appliquant les règles de la géométrie.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a affaire, dans la partie 3, aux affects. Et précisément, si les questions d'affect et pas de passion, qui est aussi un terme que Spinoza emploie par ailleurs, c'est entre autres parce que le terme de passion est le terme des moralistes. Il est le terme aussi des stoïciens. Et Spinoza opère ici un déplacement terminologique qui n'est pas neutre, à mon sens, et qui exprime le fait que les affects sont peut-être un terme plus neutre, qui explique en effet donc plutôt des choses naturelles, des phénomènes naturels qui se passent en moi, en mon corps, en mon esprit, et certainement pas des vices, des fautes, qui seraient dues à ma nature et qui seraient effectivement contraires à un ordre naturel en général.
Voilà, et on va y venir, hein, on va en parler de ceux qui combattent les passions par des injonctions morales et qui en viennent à déplorer des vices inhérents à la nature humaine face auxquels ils n'ont que la ressource de se plaindre ou d'en déplorer l'existence. On va voir comment on peut sortir de ce schéma. C'est ce que Spinoza parvient à faire dans la troisième partie de l'éthique. La première phrase, première phrase de la préface de la partie de l'éthique, hein, vous l'avez citée tout à l'heure, c'est une phrase qui est restée fameuse. C'est la deuxième. Il dit ceci: pour la plupart, ceux qui ont écrit des affects et de la façon de vivre des hommes semblent traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. On dirait même qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car ils croient que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses actions une absolue puissance et n'est déterminé par ailleurs que par soi-même. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, faisons une toute petite parenthèse d'emblée, les mêmes qui font de l'homme un empire dans un empire, qui croient qu'ils perturbent l'ordre de la nature, en somme qui affranchissent l'homme des déterminismes qui sont appliqués à toutes les autres choses de la création, puisque c'est ce langage-là qu'il faut employer ici pour qualifier cette illusion, le langage de la création. Ce sont les mêmes qui auraient tendance à voir des preuves de l'existence de Dieu dans tout ce qui déroge à l'ordre naturel, à tenir un miracle pour ce qui va contre l'ordre de la nature. Or, il y a implicitement chez Spinoza l'idée que si miracle il y a, le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher sur la terre.
Oui, alors là, vous évoquez effectivement un chapitre du traité théologico-politique qui s'en prend en effet au miracle. Spinoza traite des miracles par rapport, d'une part, aux superstitions, qui est une certaine façon de lire, c'est une façon plus ou moins délirante de lire la nature d'après un certain type de signes, et en même temps qui en effet ont un rapport tout à fait imaginatif, donc à l'égard des phénomènes naturels, et qui ne connaissent pas les mécanismes et les causes d'une nature qui se conduit essentiellement d'abord d'après certains types de lois qu'il s'agit en effet de rechercher, de comprendre, de décoder.
Le miracle et le hasard sont des effets de notre ignorance.
Tout à fait,
Spinoza.
Des effets de notre ignorance, une ignorance, on aura peut-être l'occasion de le redire, c'est un point important, une ignorance que ne condamne pas d'emblée Spinoza, c'est-à-dire que Spinoza ne va pas paradoxalement moraliser sur ce qu'il condamne comme moralisme, mais une ignorance qui est, somme toute, et ça c'est une idée
un début de
assez extraordinaire aussi chez Spinoza, qui est un début de connaissance, mais qui est un processus absolument normal. Nous naissons, dit-il dans l'appendice que vous avez cité tout à l'heure, nous naissons ignorants des causes des choses.
C'est magnifique. De sorte que, quand nous croyons agir librement, c'est l'ignorance des causes réelles qui nous font agir, qui nous fait le penser, mais il y a dans cette illusion native de l'homme un début de connaissance. C'est l'idée, on l'a évoqué avec Julien Henry, que l'erreur n'a rien de négatif. L'erreur n'est qu'une connaissance partielle.
Voilà, l'erreur n'a rien de négatif, de la même façon que l'imagination n'est pas toute négative. Autrement dit, il y a forcément beaucoup de choses que je connais par imagination et beaucoup de choses que je connais sans vraiment en connaître les causes, c'est-à-dire le fait que j'ai à mourir, le fait que j'ai à me nourrir, etc. Je ne connais pas nécessairement les causes de ces phénomènes-là, mais l'expérience, la connaissance imaginative, un certain nombre de signes me suffisent et sont effectivement fond de l'imagination, un embryon de connaissance quand même.
Mais alors, en quoi n'est-il pas inhumain de traiter des passions comme s'il était question de lignes, de plans et de corps. Puisque ça, c'est la fin de la préface. Hein. Il dit ceci, « Je traiterai donc de la nature des affects et de leur force et de la puissance de l'esprit sur eux, suivant la même méthode que j'ai utilisée dans ce qui précède à propos de Dieu et de l'esprit, et je considérerai les actions et appétits humains comme s'il était question de lignes, de plans ou de corps. » C'est une phrase qu'on lui a beaucoup reprochée.
Oui, alors je dirais que non seulement il n'y a rien là d'inhumain, mais je dirais que pour Spinoza, c'est ce qu'il y a de plus humain. C'est-à-dire que autant il considère, comme le faisait Descartes, les affects que nous éprouvons comme des phénomènes naturels, des effets, des choses extérieures sur nous, autant en effet, cette façon, je dirais, de voir les affects induit chez Spinoza, et c'est ce qu'il définit ici à la fin de cette préface, induit un certain type d'approche. Deux types d'approches qui se regroupent. La première chose, c'est que s'il s'agit en effet d'analyser et de comprendre les affects, il s'agit de, comme il le dit, ne pas en rire ni en pleurer. C'est-à-dire que ne pas avoir de réaction affective à l'égard des affects, c'est une façon de les comprendre. Et donc, il s'agit de les comprendre, c'est-à-dire en effet de rendre intelligibles leurs mécanismes, leurs processus, leurs causes.
Substituer à l'indignation, à la colère, à la rage ou à la passion, à la frénésie, tout ce qui relève, enfin, substituer à ces comportements-là, à ces comportements réflexes, l'attitude peut-être réfléchie ou en tout cas compréhensive qui consiste à voir des mécanismes là où nous avons l'habitude d'exhumer des coupables.
Oui, si vous voulez.
Ou de désigner des coupables plutôt.
Voilà, juger, condamner ne sert à rien. Spinoza promeut toujours en effet cette activité de connaissance qui consiste donc à mettre à jour des causes et des mécanismes, activité donc de comprendre, parce que c'est cela qui pour Spinoza va effectivement libérer, c'est cela qui va produire aussi des affects de joie, c'est cela qui risque de nous rendre effectivement de plus en plus actifs plutôt que de subir en effet ces phénomènes-là sans rien y comprendre.
De l'accordéon contemporain dans les nouveaux chemins de la connaissance. C'est une idée de François Connac, Raphaël Imbert, qui joue un morceau qui s'appelle ici Spinoza. Ça ne s'invente pas. Philippe Danino est notre invité aujourd'hui à mi-chemin d'un parcours de l'éthique. Nous en sommes à la troisième partie de l'éthique, dans lequel Spinoza traite des affects. Philippe Danino, vous avez dit que juger, condamner, désigner un coupable, aux dépens de la compréhension ou de l'intelligence d'un mécanisme, ne servait à rien. Oui, mais à l'échelle de l'individu. En termes collectifs, en termes de gestion de la collectivité, de la même façon que Spinoza conçoit que les humains, que la foule, vivent selon les affects d'espoir et de crainte, dont il fait par ailleurs, qu'il déconstruit par ailleurs dans l'éthique, de la même façon, le jugement ou la condamnation ne servent à rien à l'échelle d'un individu qui parcourt l'éthique et qui fait pour lui-même ce cheminement. Mais en termes collectifs, Spinoza maintient, tout comme l'idée de hasard, l'idée de jugement, l'idée de condamnation, l'espoir, la crainte, voire même le miracle.
Alors,
il y a deux dimensions là.
Hein. Voilà, là, vous abordez effectivement un thème qui est très, très chargé, qui est celui des relations entre éthique et politique. Mais par rapport précisément à ce que vous venez de dire, je dirais qu'en effet, il s'agit à partir du moment où nous coexistons dans une société, où en effet nous devons accorder en quelque sorte les appétits, les passions de chacun, nous devons réintroduire à titre d'utilité générale du jugement. Je prendrai un seul exemple. Autant, effectivement, l'éthique montre qu'en un sens, les notions de bien et de mal, au sens strictement moral du terme, n'ont pas véritablement de sens.
Ça, c'est toujours l'appendice de la première partie.
Voilà, hein, le bien et le mal vont avoir dans l'éthique la signification de qualifier finalement ce qui m'est favorable ou ce qui m'est défavorable, c'est tout. Néanmoins, au niveau politique, le besoin va se faire sentir, en effet, de définir ce qui est bien, ce qui est mal, surtout ce qui est juste, ce qui est injuste, dans la mesure où il s'agit de réguler les comportements et les appétits de chacun, en vue d'une coexistence la plus pacifique possible.
Donc, on peut dire qu'à l'échelle d'une collectivité, ce qui ne relève pas de la connaissance ou d'une théorie de la connaissance, mais qui éventuellement, par exemple, relève de la théologie ou de l'imagination, a une fonction pratique évidente. Spinoza ne cesse, ainsi pour les religions d'ailleurs, il ne cesse de dire que la Bible n'est pas une théorie de la connaissance, mais il ne cesse d'en vanter l'utilité.
Oui, c'est-à-dire que l'utilité prend un sens aussi bien au niveau individuel, dans la mesure où, par exemple, au niveau de la partie 4, du début de la partie 4, il s'agit de poser le problème de l'utile propre, de ce qui va être mon utile propre, c'est-à-dire en effet mieux compris et qui me correspondra davantage. Autant, au niveau collectif, il y a en effet un utile collectif qui, lui-même, va en effet demander un certain type de barrière, un certain type d'introduction de notions que sont, donc, comme je disais, le bien, le mal, le juste, mais également des lois qui, du coup, vont en effet participer de l'intérêt général au sens strict du terme.
Mais ça, c'est merveilleux chez Spinoza. C'est là qu'il est véritablement pacifique. Il sait ce qu'est la vérité, ou en tout cas, il croit le savoir, mais il ne s'y rend pas aux dépens de l'erreur. On l'a dit tout à l'heure, hein, Philippe Danino, mais il tolère ce que nous avons d'imaginaire, ce que nous pouvons penser de faux ou d'inexact, ce qui lui permet de penser simultanément les deux ordres, individuel et collectif. Hein.
Mais il est obligé de tolérer ça. Je veux dire par là que précisément, comme il le dit au début du traité politique, il ne...
Ça, c'est le dernier ouvrage de Spinoza, laissé inachevé. Oui.
Il ne s'agit pas, au niveau politique, de construire une utopie, mais de considérer les hommes non pas tels qu'ils devraient être, ce qui pourrait être encore une attitude de moraliste, mais tels qu'ils sont. Donc, quand Spinoza pense la politique, que ce soit au niveau du traité théologico-politique, du traité politique ou de certaines propositions de l'éthique 4, il prend en compte les hommes tels qu'ils sont, avec leurs affects, leurs appétits, leur imaginaire et le fait qu'ils sont d'abord mus par leur intérêt, par leur propre intérêt, et qu'ils ne vont en effet, comment dire...
Ce qu'ils désignent quand même comme servitude.
Ce qu'il désigne comme servitude, bien entendu. Mais l'éthique n'est pas la politique. C'est-à-dire que l'éthique, autant l'éthique présente les moyens, les conditions d'une liberté en termes de libération, en termes d'un certain accès à la rationalité et à l'autonomie, une certaine autonomie, autant la politique, encore une fois, n'a pas de prétention pédagogique, même si elle peut permettre, en effet, de réguler les appétits, de les réfréner en quelque sorte. Mais la politique, c'est d'abord la question, en effet, de la coexistence avec d'autres qui éprouvent des passions, qui éprouvent des appétits. Comment en effet faire coexister une multiplicité de personnes qui sont définies, mues par des projets, des ambitions, des espérances, des craintes, des sentiments extrêmement variés, extrêmement différents. C'est ça la question.
Mais de la même façon qu'il faut pour cheminer dans la connaissance, pour avancer dans la connaissance, développer sa puissance d'agir, aller dans la joie, de la même façon qu'il faut commencer par accepter précisément les erreurs que nous pouvons faire sur le monde, on en vient tout en pensant l'individu à tolérer collectivement, les hommes ne soient pas idéaux.
Encore une fois, il ne me semble pas que ce soit une question de tolérance. Il me semble que c'est la prise en compte sérieuse de la nature humaine, qui porte parfois un autre nom chez Spinoza, qui est effectivement l'idée de complexion. C'est-à-dire que chacun a effectivement sa complexion, c'est-à-dire en effet ce qu'on dirait aujourd'hui, son idiosyncrasie ou sa personnalité, si vous voulez, avec en
son
effet ses craintes, son individualité. Et il va s'agir en effet donc d'équilibrer, si je puis dire, cette individualité avec avec celle des autres.
Revenons-en au texte de la préface, oui. Philippe Daninot, et revenons-en à ceux qui donc, loin d'expliquer, loin de comprendre, préfèrent juger, préfèrent déplorer et préfèrent les larmes au sourire pacifique qui va avec la compréhension. Il dit ceci, parlant donc de ceux qui se fourvoient, s'il s'agit d'expliquer, c'est génial d'ailleurs parce qu'on comprend l'actualité permanente de Spinoza, s'il s'agit d'expliquer l'impuissance et l'inconstance de l'homme, il n'en trouve point la cause dans la puissance de la nature universelle, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine. De là, ses plaintes sur notre condition, ses moqueries, ses mépris, et le plus souvent encore cette haine contre les hommes. De là vient aussi que le plus habile ou le plus éloquent à confondre l'impuissance de l'âme humaine passe pour un homme divin. Deux choses ici. La haine, ou plus exactement le fait de mépriser la nature humaine, le fait de lui trouver des vices, repose au départ sur un humanisme qui mettrait l'homme au centre du monde et qui lui demanderait en somme plus qu'il ne peut. Première réflexion. Et deuxième également, le plus habile ou le plus éloquent à confondre l'impuissance de l'âme humaine passe pour un homme divin. En somme, plus on méprise les comportements humains, plus on se donne à soi-même le beau rôle.
Oui, alors, encore une fois, d'une façon générale, l'attitude de Spinoza est une attitude compréhensive. Le fait qu'il ne veuille ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Même le choix de son type d'écriture à la façon des géomètres, more geometrico, la façon dont l'éthique est écrite, signifie que, pour lui, aborder d'une façon affective, je dirais, les affects et la nature humaine serait tout à fait paradoxal et ne ferait pas avancer d'un pouce quoi que ce soit sur le chemin d'une forme de libération de notre inconstance, de notre impuissance. Donc, ici, si vous voulez, tout à l'heure, on parlait du fait que les affects étaient conçus comme des choses naturelles, qui étaient dépendants de mécanismes de l'imagination, de mécanismes de désir, de cause, etc. Il semble que l'écriture, à la façon des géomètres, soit tout à fait adéquate, justement, pour le traitement de ces affects qui sont de tels phénomènes.
On peut dire que du point de vue de Spinoza, il est impossible d'être hors la loi, au sens le plus général du terme et non pas politique.
Il est impossible d'être hors la loi, tout à fait. C'est-à-dire que, encore une fois, les hommes suivent l'ordre commun de la nature, au niveau, je dirais, physique, c'est-à-dire que si vous sautez de la fenêtre du troisième étage, comme tout corps, vous allez tomber, selon la loi de la chute des corps, et au niveau mental, si je puis dire aussi, au sens où votre imagination, vos images vont réagir et interagir avec ce qui se passe dehors, c'est-à-dire que vous allez désirer un objet parce que tout le monde le désire, vous allez effectivement haïr quelqu'un parce qu'il va ressembler à quelqu'un que vous avez déjà eu par le passé, etc. Donc ce sont tous ces mécanismes-là d'identification, d'association, de transfert, de projection que Spinoza veut mettre au jour, justement, comme s'il s'agissait, enfin par leur cause, comme s'il s'agissait en effet de plans, de lignes, etc.
Et alors, cette impossibilité d'être hors la loi, donc au sens le plus large du terme, oui. Implique-t-elle, il me semble que oui, qu'il n'y a pas chez Spinoza de mal absolu. On ne peut pas parler de mal absolu parce qu'on a bien compris que si on se jette du troisième étage, ben on va tomber, on va s'écraser. Il n'y a pas de miracle en ce sens. Ou alors, si on vole en sautant du troisième étage, c'est qu'il existe une loi de la nature jusqu'ici méconnue qui autorise qu'on vole. De sorte que ce ne serait pas un miracle. Si c'était, ce ne serait pas un miracle. Ce serait juste existant et donc obéissant à un certain nombre de lois. Mais bon, ça n'est pas le cas. Laissons cela. En revanche, est-ce que un criminel absolu, c'est-à-dire celui qui est hors la loi au sens politique du terme, celui qui commet un crime, à quel moment peut-on parler justement d'un mal absolu? Est-ce que face à Auschwitz, on peut parler de mal absolu? Ou est-ce que même là, Spinoza a dit, nous sommes en présence d'un mécanisme qu'il s'agirait de comprendre avant de pleurer?
Oui. Il dirait ça, il n'y a pas de mal absolu, mais comme dirait Deleuze, il n'y a pas de mal absolu chez Spinoza parce qu'il n'y a pas non plus de bien absolu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le cas de figure d'une volonté humaine qui serait naturellement ordonnée au bien. Et nous ne sommes pas non plus dans le cas d'une nature humaine pécheresse qui, se détournant de Dieu, de l'idée de Dieu, donnerait effectivement dans une espèce de mal métaphysique dont il faudrait après se déprendre. Donc, pas de mal absolu, pas de bien absolu. On a souvent dit que l'éthique était une éthique par-delà le bien et le mal. Il faut faire attention à cette expression. En un sens, c'est vrai. C'est-à-dire que d'une façon générale, le bien et le mal renvoient à des variations aussi de ma puissance d'agir. Le bien et le mal sont des termes pour désigner la servitude et les libertés.
C'est-à-dire le bien et le mal ne sont à l'échelle absolue et donc élémentaire du bien et du mal. Spinoza substitue l'échelle relative, infiniment plus subtile, du bon et du mauvais.
Si on veut, relative, oui. Néanmoins, le spinozisme n'est pas un relativisme, n'est pas un subjectivisme. Il existe aussi un souverain bien.
Bien sûr, mais il dit, on va y venir, hein, mais il dit quand même que le bien et le mal, c'est une façon pour nous de prendre nos désirs pour des réalités et donc d'hypostasier, hein, pardon pour ce mot amicuistre, bonjour, mais enfin quand même, d'hypostasier ce qui nous semble bon en bien ou ce qui nous semble mauvais en mal.
Oui, c'est bien ce qu'il décrit effectivement dans l'appendice à la partie, hein, c'est-à-dire que je vais prendre, si vous voulez, les vessies de mon imagination pour les lanternes du réel, c'est-à-dire que ce que je vais éprouver moi-même subjectivement, c'est-à-dire l'effet des choses extérieures sur mon propre corps, sur ce qui m'est favorable, défavorable, etc., etc., je vais en effet l'hypostasier, comme vous dites, l'objectiver en un bien avec un grand B ou un M avec un grand M, mais tout simplement parce que ça m'arrange.
Voilà, tout simplement parce que ça me convient. Et donc, en faisant la généalogie du bien ou du mal absolu, Spinoza invite l'homme dans ces conditions, ou en tout cas invite son lecteur, à ne pas être dupe de la tentation de confondre le monde avec son désir.
Oui, ce serait un bon résumé de la partie 3 et du début de la partie 4 de l'éthique, c'est-à-dire que au niveau de la partie 3, donc ça nous permet d'y revenir, c'est-à-dire que nous sommes au niveau de l'imagination, nous sommes au niveau, je dirais, de la subjectivité, même si le terme peut paraître, je le sais, déplacé par rapport à Spinoza, néanmoins, nous éprouvons, nous agissons, nous réagissons, nous désirons, d'abord, effectivement, en fonction de nous-mêmes, en fonction de nos préférences, en fonction des images, des effets, des choses sur nous. Donc, en effet, ce qu'il y a d'inadéquat dans les affects, et qui rend d'ailleurs ces affects passifs, c'est le fait que nous jugeons des choses et nous désirons les choses d'après des propriétés que nous leur accorderions.
Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, c'est parce que je la désire qu'elle est bonne. Vous avez parlé du souverain bien. Philippe Danino, peut-être on va y venir par ce biais-là, justement. C'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, c'est parce que je la désire qu'elle est bonne. À quoi on peut faire l'objection suivante ? Oui, mais alors si je désire l'héroïne, c'est qu'elle est bonne pour moi. Oui. À quoi Spinoza répondrait que c'est là un désir qu'il s'agirait d'orienter différemment. C'est un désir mal compris qui me fait désirer ce qui me semble être bon pour moi et qui en fait est mauvais.
C'est ça, c'est-à-dire
que... Et le souverain bien, c'est au contraire justement un désir qui serait tourné vers un bien véritable, allons-y.
Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le désir chez Spinoza est premier par rapport à l'objet. Le désir n'est pas fonction de tel ou tel type d'objet, nous désirons parce que nous sommes des êtres désirants, et défini comme ça, c'est cette fameuse notion de conatus.
Ce qui permet de comprendre les mécanismes publicitaires aujourd'hui, par exemple.
Ah oui, complètement. Je crois que là, on peut vraiment faire une réflexion là-dessus à partir de Spinoza.
On suscite le désir en proposant un objet, en le présentant comme désirable.
Voilà, et en plus, en travaillant sur des images, en travaillant sur des effets, en travaillant sur de la mimétique, tout ce qui est décrit dans cette partie 3 de l'éthique. Donc, à partir du moment, effectivement, où le désir est premier, comment dire ? Il est conscient de lui-même, c'est ce que Spinoza définit aussi dans le Scoli, la proposition 9 de l'éthique. Néanmoins, le fait que le désir soit conscient ne signifie pas qu'il se connaisse toujours bien, précisément, dans ses mécanismes, dans ses causes, et je dirais dans ses meilleures fins qui lui conviennent le mieux. Donc, en effet, le désir peut tout à fait se fourvoyer, et il se fourvoie quand, en effet, nous retrouvons dans les ballottements, dans la fluctuation de l'âme, comme dit Spinoza, que dans une impuissance et dans la tristesse.
Se rappelle une chose où il a pris plaisir une fois, désire en être maître, dans les mêmes circonstances que la première fois où il y prit du plaisir. Quelqu'un a commencé à avoir en haine une chose aimée, en sorte que l'amour soit tout à fait aboli, il la poursuivra d'une haine plus grande à cause égale que s'il ne l'avait jamais aimée, et d'autant plus grande que l'amour avait d'abord été plus grand. Tu ne m'aimes plus, s'indigne Don José devant Carmen. Comment se peut-il que tu ne m'aimes plus alors que tu m'aimais avant ? Plusieurs illusions derrière tout cela, hein. Notamment le sentiment que l'amour doit durer éternellement et également une façon de contrarier le présent, de le méconnaître, de lui dénier l'existence finalement, au nom du passé, au nom de ce qu'il n'est plus. Philippe Danino, dans quelle mesure la troisième partie de l'éthique s'occupe, par exemple, de ce cas tout à fait particulier de l'existence humaine et qui fait de nous les girouettes des girouettes, qui est le chagrin d'amour ?
D'abord, dans la partie 3 de l'éthique, Spinoza parle de l'amour et de la haine à propos donc de joie et de tristesse, en tant que la joie et la tristesse se donnent des objets. C'est-à-dire que aimer, c'est aimer quelque
cause
chose.
Cause extérieure.
Voilà, ouais. Cause extérieure, et haïr, c'est haïr quelque chose. À partir de là, s'applique ce qu'on a dit du désir tout à l'heure. C'est-à-dire que le désir, pour autant qu'il désire, dans l'exercice de sa puissance, ne sait pas toujours ni vers où se tourner, ni pourquoi il se tourne au fond vers tel ou tel type d'objet. Et il peut s'y tourner précisément parce qu'il imite d'autres désirs, ou il peut s'y tourner parce que tel objet lui rappelle un autre, etc. etc. Par conséquent, je peux très bien aimer ou haïr quelqu'un, non pas parce qu'il est la cause véritable de cet affect, mais simplement parce qu'il se présente à moi au moment où je suis joyeux, au moment où je suis triste, ou pour une autre cause, ou simplement parce qu'il produit en moi une espèce d'association avec quelqu'un que j'aime, ou que je hais, ou que j'ai aimé, ou que j'ai haï.
Voilà, il n'y a qu'un cœur d'airain, dit-il, hein, il n'y a qu'un cœur d'airain qui puisse aimer ce qu'un autre dédaigne.
Oui.
Ce qui est la logique du désir mimétique, là encore.
Oui, c'est ça.
Mais revenons-en quand même au chagrin d'amour. Comment la lecture de la troisième partie de l'éthique aide à lutter contre le chagrin d'amour ?
Oui, oui.
Je vous pose cette question parce que si vous avez la réponse à cette question,
oui,
on va pouvoir vendre des milliers d'exemplaires de l'éthique.
Alors je vais vous donner la réponse. Ça va être une réponse très simple. La réponse à cette question se trouve dans la partie 4 et dans la partie 5 de l'éthique. C'est d'abord ça. On en revient, si vous voulez, à la même chose. C'est-à-dire que, d'une part, j'éprouve un chagrin d'amour, c'est parce que je désire. Bien. Donc, c'est pas pour rien si le désir fait partie, avec la joie et la tristesse, des affects primaires. D'autre part, peut être tout à fait naturel, non condamnable, et comme on l'a dit, ni vice ni faute, que d'éprouver un chagrin d'amour. Maintenant, on peut se rendre compte aussi qu'à partir du moment où je peux me produire à moi-même les raisons de ce chagrin d'amour, à ce moment-là, si vous voulez, je commence à avoir une attitude qui n'est plus purement affective à l'égard de ce qui m'arrive, mais aussi une attitude rationnelle. Et déjà, je me déprends, ce que Spinoza développe dans la partie 4 et au tout début de la partie 5, déjà je me déprends, en effet, de ce chagrin-là en tant que chagrin. Donc il y a une connaissance, une prise en compte rationnelle des mécanismes de ce chagrin d'amour qui peut déjà, en effet, me libérer du chagrin en tant qu'impuissance et tristesse.
Oui, mais j'ai beau savoir qu'il est illusoire d'aimer quelqu'un ou de souffrir parce que je ne l'aime plus ou parce que ce quelqu'un-là ne m'aime plus, j'ai beau savoir que tout ça est illusoire et souffrir quand même.
Bien
à quel
sûr.
Moment on en vient toujours, hein, à cette question question. À quel moment et de quelle façon Spinoza donne-t-il à son lecteur la force, la puissance d'incorporer ce qu'il sait, de l'éprouver au point justement de diluer son chagrin dans sa compréhension?
Alors, de la même façon que Spinoza écrit de façon géométrique sur les affects, cette façon géométrique d'écrire sur les affects est déjà le signe d'une façon positive, je dirais, d'en parler, d'une part. D'autre part...
C'est pour ça que vous nous renvoyez à la partie 4, mais dès la partie 3, c'est en jeu.
Ça. Oui, oui.
Le simple fait de montrer les mécanismes
bien sûr,
montre
voilà,
bien qu'on
voilà,
a une certaine voilà. puissance sur ce à quoi nous serions
soumis. On parle déjà du pourquoi. On parle déjà du pourquoi. Et je dirais par ailleurs que le fait de comprendre chez Spinoza n'est certainement pas qu'une pure attitude théorique, intellectuelle ou spéculative. Simplement de scientifique, je mets au jour des causes, etc. Bon, là, ce sont deux causes d'attitude, de comportement et d'affect qui me concernent. L'élément principal, je crois, c'est que cette compréhension, cette attitude de la raison qui met au point, en effet, des causes, produit un affect de joie. C'est-à-dire que ma nature, comme on le disait au tout début de cette émission, ma nature, c'est aussi de raisonner, au sens où c'est aussi l'expression de ma puissance de pensée. La raison est aussi l'expression de ma puissance de pensée, et comme elle correspond davantage à ce qu'est ma nature, de réfléchir, de raisonner, de penser, alors elle va aussi augmenter ma puissance d'agir et produire un affect de joie. Je veux dire, quand on comprend quelque chose, on est content, on est joyeux, et c'est ça qui compte d'abord.
Revenons-en à la troisième partie, Philippe Danino. Une question que, personnellement, je me suis toujours posée, et que d'ailleurs on s'est longtemps posée autour de ce texte. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà trouvé la réponse. Qu'entend-il quand il dit « Nul ne sait ce que peut le corps » Proposition
oui.
folle.
Oui, proposition, ce que dit la proposition 2 de l'équipe 3. Alors, « Nul ne sait ce que peut le corps » est d'abord, me semble-t-il, une affirmation qui a pour fond la distinction que fait Spinoza entre l'attribut pensé et l'attribut étendu, c'est-à-dire en effet ce qui relève donc des mécanismes du corps ou des corps et ce qui relève des mécanismes de pensée ou des mécanismes mentaux, pour le dire vite. Ces deux types de mécanismes, même s'ils expriment une seule et même chose, sont tout à fait hétérogènes. Par conséquent, pour ce qui est des mécanismes en effet du corps propre, c'est-à-dire la façon dont se passent ces phénomènes du corps, mais aussi ses facultés, ses pouvoirs. On pourrait penser ici aux aptitudes de l'artisan, on pourrait penser ici aux aptitudes physiques, sportives, pourquoi pas. Ici, nul ne sait ce que peut le corps, c'est une injonction, je crois, aussi à l'étude poussée, en effet, donc, des fonctions, des possibilités du corps par des causes qui lui sont tout à fait propres.
Vous avez parlé des possibilités. On fait un petit détour, un instant, vers l'ontologie de Spinoza, Philippe Danino. Pour Spinoza, la notion même de possible n'a aucun sens, pas plus que la notion de hasard. Bergson, dans un texte profondément spinoziste, à mon sens, qui se trouve dans La pensée et le mouvant, où il revient sur la question du possible, montre que le possible n'est jamais tourné vers l'avenir, mais est en fait une interprétation rétroactive de ce qui a eu lieu. En somme, on considère que ce qui s'est déroulé a été rendu possible, enfin, était possible avant d'avoir lieu. Alors que ce que enseigne Bergson, c'est que les choses sont possibles une fois qu'elles existent, et dont on se dit rétroactivement, eh bien voilà, puisqu'elles existent, c'est qu'elles sont possibles. Mais en aucun cas, le possible ne précède l'existence. Il en va de même chez Spinoza.
Alors, en quelque sorte, oui, sauf que chez Spinoza, alors là, je crois qu'on a deux conceptions, enfin, qui sont quand même relativement hétérogène. Je veux dire par là que pour Spinoza, dans la mesure, ou pas les ontologies, dans la mesure où la nature est un ensemble de phénomènes, de lois, où tout se passe suivant une causalité nécessaire.
Et dans la mesure où rien n'échappe à cette loi.
Et où
loi,
rien
c'est
n'échappe.
C'est ça qui est essentiel. Hein.
Où rien n'échappe
quand
cette,
il dit nature, il dit tout, il désigne tout. Ça
voilà.
n'est pas la nature contre l'homme. Hein.
Voilà, l'ensemble des choses qui sont, pour le dire simplement, si on veut, il n'y a pas de possible, et le possible, à nouveau, n'est jamais que le de mon ignorance. Bergson, en effet, montre que le possible relève d'une sorte d'illusion rétroactive, mais je crois va plus loin dans sa conception. Et c'est là où Spinoza n'irait pas du tout, c'est que pour Bergson, c'est par mon acte de liberté que je crée en quelque sorte le possible. C'est-à-dire que je fais effectivement entrer dans l'existence par mon acte libre, par mon geste même, ce qui éventuellement pouvait ne pas y être, c'est-à-dire que c'est l'homme qui, par ses actes, met en place les possibles eux-mêmes, qui pourront s'interpréter comme tels rétroactivement après. Mais là, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans Spinoza.
Oui, mais il y a chez Spinoza également l'idée que, comme dirait Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Il y a également chez Spinoza l'idée que l'action, l'acte, le fait d'agir, l'existence, en somme, précède la décision, précède tout ce qui, dans l'esprit des gens en général, d'ailleurs, viendrait avant. La décision, la réflexion, la délibération, de la même façon que l'existence précède l'essence.
Là, je crois que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire cet adage existentialiste projeté sur Spinoza, me semble poser quand même un certain nombre de problèmes, dans la mesure où, pour Spinoza, l'existence ne se définit pas par sa liberté, l'existant ne se définit pas comme projet.
Non, bien, rien de tout ça. Je
et
dis que, pas que Spinoza
autant
est
vous parlez de décision, autant effectivement ce sont des notions qui s'accordent.
Non, je dis que les choses existent avant d'être créées, que les choses elles sont là, elles sont données, elles existent de la même façon que Dieu, c'est-à-dire la nature, n'a pas créé le monde, mais qu'il en est le contemporain, l'identité
oui.
depuis toujours.
Oui. Oui, l'essence de Dieu, c'est sa puissance, et sa puissance consiste à produire des effets, à produire des choses singulières, entre autres.
De sorte que l'existence et l'essence de Dieu sont une seule et même chose.
Tout à fait.
Est-ce qu'on ne peut pas retrouver cette intuition, justement, dans l'activité humaine ? Le moment où la liberté, finalement. En général, on dit, voilà, quand on est libre, ceux qui tiennent l'homme pour un empire dans un empire sont également les mêmes qui considèrent que l'homme dispose d'un libre arbitre et que, de façon tout à fait contradictoire oui. d'ailleurs, disposant d'un libre arbitre, il pèse le pour et le contre et il choisit, après mûre délibération, tel acte plutôt que tel autre. Bon. Mais une telle conception n'est pas du tout spinoziste. Il y a chez Spinoza l'idée que la liberté, elle est contemporaine de l'acte lui-même. Elle n'est pas un préalable, elle n'est pas en deçà.
Si je peux me permettre, je rectifierai un petit peu ce que vous dites, au sens où parler d'emblée de liberté de l'acte pour l'homme chez Spinoza pose effectivement problème dans la mesure où nous devenons libres et que cette liberté, en effet, s'articule à la question de la nécessité et d'ailleurs aussi par différence avec la contrainte. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, là où ce que vous dites, en effet, peut faire sens, c'est lorsque, dans la proposition 6 de la partie 3, il parle du conatus, de cet effort de l'homme pour persévérer dans l'être ou dans l'existence après, et il dit que cet effort pour persévérer dans l'être, qui n'est pas d'ailleurs spécifique à l'homme, il faut le préciser, c'est l'essence actuelle de la chose. C'est l'essence actuelle, effectivement, de l'homme. Autrement dit, en effet, mon essence consiste à agir pour me maintenir dans l'existence, pour me conserver et aussi pour rechercher la joie. Et j'imagine, d'ailleurs, ce que pose une proposition de la partie 3, j'imagine tout ce qui peut favoriser ma joie et tout ce qui peut, en effet, donc faire disparaître ma tristesse. Donc là, il y a de l'acte, oui.
Chaque chose autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Proposition 6. Proposition 7. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien à part l'essence actuelle voilà. de cette chose. Et proposition 8, juste après, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'enveloppe pas un temps fini, mais indéfini. C'est la formulation du conatus, c'est également la loi du désir. Quoi que nous fassions, nous ne sortons pas de ce désir de persévérer dans l'être, fût-ce en prenant des chemins de traverse. Il n'y a pas de négativité
mais
pour elle-même. En
voilà, il n'y a pas de négativité. Alors nous n'en sortons pas, mais je veux dire, c'est pas grave. C'est précisément la puissance qui caractérise toute chose. Alors, deux mots sur cette idée de conatus quand même, qui vient d'un verbe latin, conari, qui veut dire se disposer, s'apprêter à faire quelque chose, entreprendre une action, bon, et qu'on a pris l'habitude de traduire par effort. Le conatus qui définit chaque chose chez Spinoza, d'abord pourquoi ? Parce qu'il articule à la puissance divine elle-même. Dont nous sommes expression, un mode d'expression. Le conatus est un principe d'affirmation essentiel des choses, par lequel principe, une chose d'abord se maintient, se préserve, affirme sa nature, et même plus loin, comment dire, présente une recherche qualitative de la joie en tant qu'augmentation de la puissance d'agir.
Est-ce qu'il en dirait autant? Allez-y.
Non, simplement pour terminer, en effet, vous parlez d'affirmation. Il n'y a aucune négativité interne de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si quelque chose me détruit ou si même je meurs, c'est en raison de causes externes. Et tout le problème est là, puisque dans la partie 3, j'ai affaire dans ce que je désire à la rencontre des causes externes qui peuvent soit me convenir, comme un aliment qui me nourrit, soit en effet me contrarier ou me détruire comme un poison que je vais ingurgiter ou un ennemi.
C'est là que Spinoza n'est pas du tout stoïcien. Puisqu'on a souvent, d'ailleurs, quand on le lit de travers, on identifie Spinoza au stoïcisme, en faisant d'ailleurs du spinozisme implicitement une philosophie de la résignation, de l'acceptation. Enfin bon, là où Spinoza n'est pas du tout stoïcien, c'est que les stoïciens ne cessent, de façon d'ailleurs tout à fait paradoxale et contradictoirement au système qu'ils déploient en général, ne cessent de vanter, par exemple, la possibilité du suicide comme une reprise de la liberté humaine sur sa propre trajectoire. Oui. Or, que dit Spinoza ? Nous ne pouvons jamais affirmer notre liberté en nous suicidant. Ça n'est jamais le propre de la liberté que d'attenter à sa propre existence.
Oui. Considérant la nature humaine elle-même, le suicide est effectivement une impossibilité. Au sens où précisément cette nature humaine, comme on l'a dit, donc, se définit par la recherche de la joie, se définit en effet par son désir de conservation, et par la recherche donc, de tout ce qui va pouvoir favoriser cette conservation et la maintenir. Donc encore une fois, il n'y a pas négativité, c'est une affirmation de pleine positivité. En revanche, le suicide qui peut être de l'ordre du fait, le suicide peut en effet s'expliquer par la puissance bien supérieure des causes extérieures sur ma propre puissance.
Donc le suicide relève le moment où on croit qu'on s'empare de sa liberté, où on dit voilà, par une liberté absolue comme dit Hamlet, hein, en un seul geste je donne mon quitus et adieu, exit, et ma liberté reprend le dessus, en vérité c'est le moment de l'asservissement le plus extrême.
Oui, qui se suicide est triste. C'est-à-dire, effectivement, qui se suicide, j'imagine, en tout cas dirait Spinoza, expérimente des puissances qui le dépassent complètement.
Une soumission absolue qu'il prend pour un retour de liberté.
Une servitude et une impuissance, effectivement, qui est quasi maximale.
Revenons-en, parce qu'on arrive au terme de cette émission déjà avec vous, Philippe Danino. Revenons-en juste à une observation stylistique sur la troisième partie. C'est très frappant de voir dans la troisième partie, il n'y a que des tautologies dans la troisième partie. Hein. Quand on déteste, on est triste. Quand on aime, on est joyeux. Quand on a aimé quelqu'un, on le déteste d'autant plus qu'on l'a aimé. Quand on imagine la personne qu'on a aimée mêlant ses parties honteuses et ses excréments, comme il dit, par quoi il désignait le sperme, aux parties honteuses et aux excréments d'une autre personne, on en souffre d'autant plus. Bref, on a l'impression que Spinoza ne cesse d'énoncer des évidences, des tautologies dans cette troisième partie. Et pourtant, ce texte est profondément subversif.
Alors, subversif, je ne sais pas si c'est la partie de l'éthique qui se présente comme la plus subversive, sauf en effet à considérer les affects comme il les considère. Parce que je dirais que la façon dont Spinoza traite des affects est tout à fait originale, même si c'était en quelque sorte un lieu commun du XVIIe siècle. Mais la façon dont il le traite, je pense à Descartes ou à Hobbes, la façon dont il le traite est tout à fait originale en trois points rapidement. D'abord, cette explication par les causes. Donc il considère l'objet comme secondaire par rapport à cette énergie qui est la nôtre. Deuxièmement, par l'instauration de cette imitation des affects des autres, en effet, c'est-à-dire que, si vous voulez, mes sentiments, si je puis dire, sont tributaires en effet de l'image que les autres en ont, que je me fais des autres à leur égard, donc ce mimétisme affectif. Et troisièmement, c'est un mécanisme, et ça aussi c'est relativement original, un mécanisme qui est opaque à nous-mêmes, mais qui n'est pas nécessairement destiné à le rester.
Sure.
du Schubert. Pour terminer cette émission, à votre compagnie, Philippe Danino, merci d'être venu nous parler de la troisième partie de l'éthique. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philo au lycée Buffon à Paris 15e et que vous êtes inscrit en thèse de doctorat à la Sorbonne à Paris 1 sur l'idée de philosophie chez Spinoza. C'est donc de la troisième partie de l'éthique qui parle des affects que nous venons de parler. Moi, je vous suggère, chers auditeurs, de lire cette troisième partie et de la mettre en miroir avec le traité des passions de l'âme de Descartes, de montrer comment l'un et l'autre essaient de répondre à cette difficulté de vivre et à cette difficulté d'être heureux malgré le monde. Je signale également, Philippe Danino, deux publications qui vous concernent. Un, la définition de l'ambition chez Spinoza, l'ambition comme l'affect du philosophe. Vous êtes gonflé quand même. On en reparlera, c'est dans la revue Philon Sorbonne, paru en janvier 2009. Et deux, Fortitude et servitude, une lecture de l'éthique 4 de Spinoza chez Quimet
ouvrage collectif.
En 2003. C'est un ouvrage collectif. Demain, nous parlerons de la quatrième partie de l'éthique en compagnie d'Igor Kortolitsa. Il faudra qu'il me pardonne si j'écorche son nom. Vous pourrez podcaster, chers auditeurs, ces émissions toute la semaine sur notre site internet. À la technique aujourd'hui, Sébastien Delabarre. À la réalisation, François Connac. Assistant, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Laetitia Cordonnier, Tristan Grenassia et Jennifer Murzo. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.